Samedi 3 septembre 2005. Le milieu de la poésie en France est un petit milieu. N'ayant pas moi-même évolué dans beaucoup de milieux différents, j'aurais du mal à juger de sa petitesse relative, mais je gage qu'il est beaucoup plus étroit que celui des surfeurs, qui n'ont pas besoin de traduction en anglais pour hanter avec leurs planches les rouleaux des Caraïbes ou de la Californie, et constituent donc de ce fait une fraternité internationale. Négligeable par rapport à celui des joueurs de squash, ridicule au prix de celui du théâtre, peut-être comparable à certaines spécialités de la philatélie, quoique cette passion draine sans doute un peu plus d'argent et beaucoup moins d'amateurisme éteint, je veux dire pas éclairé. Or, une personne entièrement étrangère à ce petit milieu pourrait estimer que, eu égard à la quasi-inexistence du lectorat et considérant le caractère non lucratif des entreprises qui n'y prospèrent pas, tous les membres de la communauté doivent sûrement se traiter entre eux sur le pied de la tolérance et de la solidarité. Notre Candide serait donc très surpris d'apprendre qu'au contraire, le milieu de la poésie ressemble à la noblesse d'ancien régime pour ce qui est des hiérarchies fines et des quartiers de noblesse, et que là où un désaccord apparaît sur le point de savoir qui doit la préséance à qui, c'est simplement la guerre la plus féroce qui fait rage, pas de quartier. Si bien qu'à moins d'avoir blanchi sous les honneurs d'époques et d'idéologies diverses, presque personne n'est à l'abri de l'excommunication ou de quelques fatwas, dirais-je, pour me faire comprendre des lecteurs, des jeunes lecteurs, et tout le monde doit souffrir les insultes ou les calomnies d'une grosse minorité du clergé poétique, tant du bas que du haut. Pour expliquer ce paradoxe, je hasarderai que, lorsque les hommes se battent pour un certain pouvoir, ils ne regardent pas comme désirable le seul symbole du pouvoir, mais visent avec lui une foule de commodités, d'avantages, d'obligations, de servitudes et de grandeurs qui sont inextricablement réelles et imaginaires. Par conséquent, supposer que leur combat soit le plus terrible du monde, toutefois, il ne donnera presque jamais lieu au pire, parce que la réalité du pouvoir, complexe et partageable, exige des accommodements et des trêves, même de la part de lutteurs qui se détestent de toute leur âme. Enlevez à présent cet enchevêtrement réel et imaginaire de jouissance dans lesquelles ordinairement se tisse le pouvoir, il vous restera une puissance purement symbolique, à laquelle 110 ventes au lieu de 75, quelques compliments peut-être hypocrites, et la ferveur d'une poignée de culturels ou l'édition prochaine d'un DVD ne fourniront pas plus de consistance qu'elle n'en a sèchement par elle-même. C'est selon moi la raison pour laquelle les poètes sont aujourd'hui des gens capables du pire. L'anéantissement ne menace en effet aucune réalité. Un suicide, entre guillemets, n'entraînera pas plus de conséquences que l'annulation du prochain DVD, entre guillemets. Et nous irons potentiellement vers la guerre de tous contre tous, pour autant que les auteurs de poésie devront s'arracher les uns aux autres les débris d'une pénurie de réalité accablante. J'ajouterai qu'une certaine haine de l'intellectualité dominante dans le milieu ne favorise pas la prise de conscience intelligente des intérêts communs du sensus communis. On rencontre plus de lecteurs de Wittgenstein ou de Deleuze chez les artistes que chez les poètes.